explication simple. C'est tellement multifactoriel, il y a tellement de choses qui influencent la décision ou pas de faire des enfants qu'on peut jamais dire c'est ça et c'est que ça. Simplement, il y a quelque chose qui se passe en France depuis 2010. En 2010, on faisait encore beaucoup d'enfants, on avait un taux de fécondité à 2 enfants par femme. Et depuis 2010, les naissances, elles ont chuté de 25%. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, qui a complètement dégringolé, il y a une cassure. Moi, je le relis quand même au contexte économique. On a quand même vécu 3 crises économiques majeures, hein, je vous rappelle, depuis 15 ans. 2008, la crise de la zone euro, la crise Covid. Ça, c'est les jeunes qui l'ont payé. Le logement est devenu de plus en plus inaccessible pour les jeunes. Ils ont perdu 2 chambres d'enfants en moyenne dans les grandes villes. Donc voilà. Et puis, oui, il y a ce problème de mode de garde aussi qui fait qu'aujourd'hui, on manque de places dans les crèches, on manque d'effectifs dans les crèches. Ça donne une partie de la réponse à votre question, mais bien sûr, il n'y en a pas que ça. Il y a d'autres facteurs qui jouent.
C'est vrai que oui, souvent on appose le non-désir d'enfant avec la baisse de la natalité. Oui. Je pense que, enfin, il y a toujours eu des personnes qui voulaient pas d'enfants, donc je pense que ça c'est pas nouveau, c'est pas forcément un phénomène ni une mode. Et en ce qui concerne les raisons, ouais, c'est, bah alors, en ce qui me concerne, il y en a pas. C'est un désir viscéral, je dirais, de ne pas vouloir d'enfants. Mais c'est vrai que si on regarde les sondages qui ont été menés ces dernières années, que ce soit l'UNAF ou il y a eu un gros sondage, elle, avec l'IFOP, il y a 2 ans, qui avait fait beaucoup parler, c'est des questions d'épanouissement personnel. Il y a aussi clairement des questions de peur vis-à-vis de l'avenir, mais donc, qui rejoignent ce que vous venez de dire. Des questions financières aussi, des questions de taille de logement. Il y a de la préoccupation structurelle, éco-anxiété qui rentre aussi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le cadre vraiment, là, je parle du non-désir d'enfant, c'est que si demain il n'y a ni problématique d'inégalité de genre, ni crise climatique, la plupart des gens qui ne veulent pas d'enfants n'en voudront quand même pas.
Ils n'auront pas en vouloir. Hervé Lebras.
La guerre, mais ça a eu lieu 3 fois au début du 19e siècle, mais c'était parce qu'il y avait eu des épidémies de grippe assez fortes, et puis ça a eu lieu à partir des années 36 en France. Donc c'est pas tout à fait la première fois, mais à chaque fois, je dois dire que ça avait créé une grande émotion, surtout à la veille de la guerre de 14, parce que on avait peur de la natalité des Allemands, qui était très nettement supérieur, et on disait ça sera des soldats contre nous.
Maxime, si on regarde
territorial très forte, hein, effectivement dans les DOM, alors il y a des différences culturelles, il y a aussi Mayotte qui joue beaucoup, qui est un peu une exception. En réalité, quand on parle de dénatalité,
à cause d'une immigration.
Oui, aussi, mais en fait quand on parle de dénatalité, on voit les chiffres nationaux, mais en réalité c'est très concret déjà dans les territoires. Il y a par exemple, je vous donne un chiffre, on a perdu 1,5 million d'écoliers dans les écoles en France.
D'accord.
On a fermé plus de 6 000 écoles élémentaires en France depuis 2010. Et des maternités aussi, ça suit en fait. Et donc effectivement, les écoles, les maternités se vident, les balançoires se vident, les écoles se vident, puis c'est les lycées, puis les collèges. Donc tout ça est une espèce de marée descendante qu'on ressent au long cours.
Dans les zones urbaines principalement, c'est
alors,
ça
dans les zones urbaines,
moins
par...
en ruralité, moins dans les campagnes.
Je donne l'exemple de Paris. Ouais. Paris, c'est un des départements où il y a le taux de fécondité parmi les plus bas, 1,2 enfants par femme en moyenne.
Ouais.
C'est bien connu, à Paris, on fait un enfant en camp, deuxième enfant, on décampe, vous voyez. Parce que la pression immobilière, parce que les modes de garde, et donc on part en périurbain et on essaie de s'éloigner un peu du centre-ville. Mais vous avez aussi c'est là où en fait la dénatalité et le vieillissement viennent se croiser. Vous avez des départements entiers, je pense à Bergerac, je pense dans le Loir, dans le Cher, où en fait on a quasiment plus de jeunes et on n'a plus que des personnes âgées. Ce qui va poser aussi des grosses questions à l'avenir. Comment on va s'occuper des aînés si on n'a plus de jeunes?
On va y venir.
Et c'est le monde entier, ça a commencé autour de 2008. Alors selon les pays, ça peut être 2010, la France c'est 2012 où ça s'amorce. Et c'est très important dans la plupart des pays. Prenez la Chine. La Chine est à 1,7 enfants en 2017, au moment où on généralise l'abandon de la politique.
De la politique de l'enfant unique.
Oui, et elle vient de passer au-dessous de un enfant par femme. Prenez les
États-Unis. C'est probablement plus bas parce qu'ils truquent un peu leur...
Oui,
ah ouais, en plus.
Peu importe, c'est très bas. Oui, parce qu'il y a plus bas. Mais on cite toujours l'exemple de la Corée, mais prenez les États-Unis. Les États-Unis étaient à peu près à 2,15 en 2008. Et là, la cassure est très nette. C'est en 2009 que ça commence à diminuer. D'accord. Et maintenant, ils sont à 1,65. Donc, il y a un effet général. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu méfiant sur des causes trop françaises à cette baisse. Il y a quelque chose, et on peut dire, il y a une mondialisation de la baisse. Et c'est la première fois, parce que la grande baisse, disons, qui a été liée à la contraception moderne, a été très différente selon les pays.
D'accord.
Mais même... Prenons un autre exemple, le Chili et l'Argentine. Le Chili était maintenant à 1,14 enfants par femme et ça s'est déclenché exactement en 2014. Vous voyez, donc il y a un mystère parce qu'il y a beaucoup de mystères dans la démographie.
Mais en tout cas, c'est là, un mouvement général.
C'est bien de effectivement se préparer parce que c'est vrai que si on a un désir d'enfant et qu'on se rend compte qu'il y a une infertilité, vu les parcours PMA qui sont très longs et qui en plus n'aboutissent que dans moins d'un cas sur deux, hein, c'est vrai qu'on érige toujours ça en solution miracle, mais ça marche pas toujours. Ça peut être une bonne chose. Moi, là où je vois un souci et un risque, en tout cas pour les femmes et leur liberté, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression que les politiques familiales et natalistes n'entendent pas en fait la diversité des besoins. C'est-à-dire que juste dire il faut régler l'infertilité, enfin en tout cas il faut faire des tests de santé, plus là ce qui se trame en termes d'allocation, enfin d'aide, c'est les allocations familiales, etc. C'est pas suffisant et en fait moi en tant que militante féministe aussi je trouve qu'on n'est pas très entendu sur plein d'autres causes annexes, par exemple la répartition des tâches, la répartition des congés, etc. Là-dessus en fait l'infertilité seule n'est pas une cause de cette baisse de la natalité.
Parce qu'en fait, l'infertilité n'est pas une cause, elle est une très très faible cause. Si actuellement, les femmes continuaient à avoir des enfants aux âges auxquels elles les ont, mais ne pratiquaient aucune contraception. Les modèles montrent qu'elles auraient un peu plus de 5 enfants. Oui, parce que
donc c'est la contraception, c'est ça que vous dites.
Bien
la contraception, c'est pas l'infertilité.
La stérilité, ce qu'on appelle la probabilité, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une conception au cours d'un cycle, diminue assez vite, mais elle est à peu près d'un cinquième, donc ça veut dire que on a un enfant après 5 essais. Alors elle baisse vite, mais si elle est divisée par 2, ce qui est le cas arrivé vers 37-38 ans, c'est un dixième, donc ça prend... On l'a en 10 mois, c'est pas énorme non plus, et ainsi de suite. Donc, sous l'Ancien Régime, les femmes au XVIIIe siècle avaient leur dernier enfant à 42 ans et demi en moyenne.
Et alors, aujourd'hui.
Ça dit aussi qu'on a peut-être besoin de changer aussi les mots pour qualifier ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le chiffre que vous venez de montrer. Effectivement, il y a
des enquêtes. Moins de 30 ans qui souhaitent moins de 2 enfants contre 2 et il y a 20 ans. Donc, une baisse du désir.
Il y a un peu une baisse du désir. Alors, après, quand on demande le nombre idéal, il y a un peu au-dessus de 2. Il y a un autre chiffre aussi, il y a le Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge qui avait fait un sondage en mai qui montre que 88% des Français de moins de 35 ans ont déjà un enfant ou projettent d'en avoir. Ce qui montre quand même que le désir d'enfant reste ultra majoritaire en France, que ce chiffre de 2, en fait, il ne correspond pas à la réalité. Encore une fois, moins 25% sur les naissances en 15 ans. Donc il y a un décalage qui est en train de s'installer entre la volonté et la réalité. Moi, c'est ça qui m'interpelle, parce que si les naissances baissaient simplement par choix et parce que les Français veulent plus faire d'enfants, l'État n'a rien à faire dans les chambres à coucher. Et il faudrait simplement le regarder sans se dire il y a quelque chose à faire. C'est un peu l'inverse qu'on observe.
Vous parlez en tout cas, moi, les discours que j'entends en tant que personne qui ne veut pas d'enfants, c'est ça, mais c'est vrai qu'en réalité, je trouve qu'il y a le fait de corréler, le fait de parler des femmes qui ne veulent pas d'enfants, parce qu'on parle en plus très souvent des femmes qui ne veulent pas d'enfants et pas des hommes, et la baisse de la natalité, c'est créer un amalgame, j'ai l'impression, comme si la baisse de la natalité était de notre faute. Et souvent, en tout cas pour les discours les plus conservateurs et
vous
réactionnaires...
Vous ne seriez pas patriotique.
Voilà, c'est ça. Les plus réactionnaires, c'est ça. On ne donne pas notre corps à la nation contre un péril extérieur civilisationnel. Enfin, c'est vraiment là, on est vraiment là-dedans. Et c'est vrai qu'en réalité, si on regarde... Je regardais mes notes, parce que je ne vais pas dire des bêtises en termes de chiffres, mais en termes de ce qui est mis en avant pour les besoins des Français par rapport au désir d'enfant, c'est que ce qui est mis en avant, c'est le fait d'avoir des congés suffisants et bien payés. C'est l'UNAF qui a publié ça l'année dernière. Pour 66% des familles et 70% des gens qui n'ont pas encore d'enfants, ils réclament donc des congés suffisants et bien payés. 74% des gens sans enfants parlent de conditions de travail adaptées, donc une meilleure conciliation vie pro-vie perso. Et 67% parlent des services de garde. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse structurelle satisfaisante.
Pardon, Maxime Payet.
Non, il y a des très bons exemples, mais plus exactement, ce qui est faux, c'est quand il y a plus de décès que de naissances, le pays va mal. En Allemagne, depuis 1973, il y a plus de décès que de naissances. Et malgré cela, contrairement à ce que croyait M. Michel Debré, qui a fait une prévision entièrement fausse, puisque la population de la France a augmenté de plus de 12 millions depuis qu'il a raconté cela, la population allemande aussi, bien qu'il y ait plus de décès, a augmenté assez nettement.
Parce qu'ils ont fait venir une immigration importante.
Eh bien voilà, parce qu'il faut toujours tenir compte de l'apport migratoire.
Alors attendez.
C'est moins la taille de la population que sa composition. Parce qu'en réalité, on est en train de vivre une dénatalité au moment où on est en train de vivre un vieillissement de la population comme jamais. Et donc, en fait, les maternités se vident et les maisons de retraite sont en train de se remplir. Et tout notre modèle social a été pensé à l'inverse, avec beaucoup de jeunes qui financent très peu de personnes
âgées. La retraite,
c'était le baby-boom, ça a marché pendant les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, on a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs pour les financer. Et donc, il faut repenser le modèle social.
Alors, non,
justement, c'est une menace pour les retraites, mais ça ne sera une menace que dans 20 ou 25 ans, parce que
actuellement... En 2050, oui, mais enfin, quand même.
Sûr, bon,
alors, attendez.
Des choses, mais en réalité, je suis pas sûre. En fait, à partir du moment où il n'est pas obligatoire pour les deux parents, et notamment pour les pères, puisque les pères prenaient encore beaucoup moins leur congé paternité. Enfin, déjà, il y a 30% des pères qui ne prennent pas ce congé alors qu'il est obligatoire. Et quand on parle du congé parental, c'est moins de 1% des hommes et 14% des femmes.
Donc, je pense qu'à la différence que le congé parental, c'est 400 euros par mois et que donc, forcément, voilà, c'est pas très incitatif.
Mais là, ça revient même, c'est-à-dire que ça va être toujours dans les couples le moindre salaire qui va être qui va s'arrêter avant, en tout cas, l'autre. Mmh. Et moi, je pense qu'à partir du moment où il est pas rendu obligatoire pour les deux parents, je pense pas que ça va réduire les inégalités. Mmh. Si on part pas sur un même modèle que, par exemple, l'Espagne, qui est quand même assez novatrice là-dessus, c'est 19 semaines de congé par parent obligatoire. Et en réalité, c'est un des pays qui rattrape le mieux les inégalités entre les genres. Mais et il y a même eu un petit rebond de la natalité l'année dernière pour la première fois depuis un certain temps.
Mais Maxime...
partage effectivement homme-femme, ça permettra au papa de rester, je l'espère, un peu plus longtemps aussi, puisque 28 jours, c'est pas beaucoup, hein, quand on a envie de rester aussi avec les enfants. Donc ça va dans le bon sens, mais c'est minimaliste, et ça ne règle pas cette question des modes de garde. Et excusez-moi, mais dans le budget de la Sécu, ils ont fait quelque chose d'extrêmement contraire, c'est qu'ils ont décalé la majoration des allocations familiales de 14 à 18 ans. Et donc en fait, on fait un signal positif là sur le congé de naissance, ça fait quand même 4 ans qu'on l'attend, le congé
et
parental. Hein.
Par
et de l'autre côté, les allocations familiales, elles, on fait des économies dessus, on fait des économies sur les allocations familiales pour financer les pensions de retraite qui augmentent, soi-disant donc la natalité d'hier, et on fait des économies aujourd'hui sur les familles.
Peut,
donc, oui, ça va dans le mauvais sens.
Attends, on peut en discuter. Très quelquefois, ça donne ce qu'on appelle un effet d'aubaine.
Momentané,
ça monte un tout petit peu, et puis 3-4 ans après,
c'est pas suffisant.
Je vais prendre des exemples.
Il y a une inversion de la tendance en Hongrie qu'on critique beaucoup, parce qu'on ne paye pas d'impôts quand on a 3 enfants.
Exactement.
Dans le résultat,
la Hongrie est tombée à 1,28.
Donc même ça, ça ne marche pas comme ça.
Ça ne marche pas du tout.
La Russie,
même chose en Russie, ça ne marche absolument pas. Poutine fait dans chaque année un discours où la moitié du discours, c'est sur la natalité. Il donne de l'argent, il donne des terrains, ils donnent des prêts sans intérêt, ça ne marche pas. La Chine a maintenant une politique nataliste assez puissante, vous avez vu, elle est tombée de 1,7 à 1.
Mais les Français disent que ça coûte cher d'avoir des enfants en même temps, non, Maxime Bailly,
peut-être,
ça coûte cher d'avoir des enfants.
Mais c'est pas de l'argent.
Encore une fois,
c'est pas des mesures qui sont justement des mesures où on donne beaucoup pour les... font beaucoup de facilité aux parents. C'est la thèse d'un professeur de Sciences Po, Julien Damon. Il y a peut-être là-dedans quelque chose à chercher, mais ça sera modeste.
Julien Damon, ils vont reconnaître qu'ils sont plus fragiles, des couples qui se séparent et des séparations qui font que du coup la taille des familles se réduit.
Vous pensez, Bettina Zouran?
Pour l'instant,
ça élargirait les modalités.
Ça élargirait les modalités, oui, alors dans une certaine mesure. Après,
même
moi,
si éthiquement, c'est
toujours sur un prisme féministe, donc je reste très critique là-dessus.
Contre la marginalisation.
Je pense qu'effectivement, il y a des questions qui se poseraient là-dessus. Mais en tout cas, ce que l'on voit, pour revenir sur ce qu'on disait sur les incitations financières, c'est qu'effectivement, ça fait un pic et ensuite ça redescend. C'est que si on ne prend pas en compte les besoins actuels, et là, je vais parler pas spécifiquement.
Mais c'est quoi les besoins? Bah, c'est les besoins presque spirituels, ça dépasse tout ça?
Non, on en a même pas trop parlé, mais moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez flagrant, c'est le gender gap en ce moment en termes de mœurs et de besoins. Le fossé idéologique entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, qui est calculé par le Haut Conseil à l'égalité tous les ans et qui est alarmant.
C'est-à-dire
qu'on est sur des besoins justement de reconnaissance de l'égalité
Égalité par rapport,
par rapport à leur conjoint, et aussi donc de pas vouloir mettre de côté leur carrière, c'est pas tant pour. Pas qu'une réalisation, mais c'est aussi un besoin de ne pas devenir dépendante économiquement de son conjoint, parce qu'on, pareil, on l'a pas dit, mais l'entrée en maternité, enfin l'entrée en parentalité entre un homme et une femme, c'est pas du tout la même chose.
C'est pas du tout la même chose.